Il a quel âge ton papa?
55%.
Oh la chance!
Et le tien?
Bah il a que 41%.
Vous voulez pas m'adopter?
Jusqu'au 30 octobre, avec l'offre pourcentage de Grand Optical, votre âge égale votre pourcentage de réduction sur votre monture et celle de vos enfants. Grand Optical, rien n'est trop grand pour vous. Conditions en magasin, dispositif médical CE.
Vous écoutez RTL.
Il est 15h et bientôt 4 minutes sur RTL. C'est l'heure d'accueillir Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. Bonjour Flavie.
Bonjour Bénédicte Tassard. Vous allez rester à notre écoute car l'émission sera passionnante et utile. Ça, c'est un ordre. Et je vous rendrai l'antenne.
Je vous suis promis.
À 16h pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure, Bénédicte.
À tout à l'heure.
E102, E200, E900. Lipides, glucides, protéines, calories, fibres, allégées, riches en, à teneur réduite en. Vous n'y comprenez rien aux étiquettes alimentaires. On reprend tout à zéro aujourd'hui. Et c'est tout de suite sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors êtes-vous tenté par la médecine esthétique? On a essayé de vous éclairer, en tout cas sur ce sujet hier. Une émission disponible en replay sur rtl.fr. Que vous soyez bedonnant, à double menton, chauve, à la pilosité foisonnante, à la paupière tombante ou à la vallée des larmes prononcées, eh ben on s'en fout ici. Soyez les bienvenus dans cette émission faite pour vous et avec vous. 3210, les réseaux sociaux, toutes vos questions sont attendues aujourd'hui car figurez-vous que nos invités ont la réponse. Quand vous faites vos courses, lisez-vous les étiquettes alimentaires ou, comme la plupart d'entre nous, ne prêtez-vous attention qu'à un quart des informations disponibles sur les emballages. Elles sont pourtant, ces étiquettes, pleines d'enseignements. Eh bien oui, vous pouvez par exemple découvrir que certains potages ne contiennent que 20% de légumes ou encore que des yaourts allégés le sont en graisse mais pas toujours en sucre. Alors, sait-on réellement ce que l'on mange? Comment décrypter les étiquettes alimentaires? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Bénédicte Aubry, bonjour.
Flavie Flamand, bonjour.
Avez-vous passé un bel été, Bénédicte Aubry?
Très bon été, j'ai lu des étiquettes tout l'été.
Très bien, comme ça vous pouvez effectivement répondre à les étiquettes de maillot de bain ou les étiquettes...
Tout.
Très bien. Vous êtes partie en vacances avec Serengo sous
bien
le bras,
sûr.
Puisque vous êtes la rédactrice en chef adjointe de Serengo, magazine, amie et partenaire de cette émission. Alors vous nous l'avez dit il y a un instant, aujourd'hui on va être...
pédagogique.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est vrai que c'est super compliqué, les étiquettes alimentaires.
Les étiquettes, c'est très compliqué, c'est rébarbatif à lire, parce que,
oui.
Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même écrit tout petit.
Comme par hasard.
Voilà. Je crois qu'il y a une taille minimale qui est de 1,2 mm, mais 1,2 mm, c'est peut-être le minimum, mais c'est beaucoup quand même. Hein.
Oui.
Parfois, c'est écrit sur du papier transparent, on ne voit rien. Et puis, c'est plein de mots jargonneux qu'on ne comprend pas.
Donc, tout est fait pour nous embobiner?
Tout est fait pour nous embobiner, pour nous perdre, mais il y a la presse, il y a des spécialistes et là on est là pour vous aider, on va tout vous expliquer.
Très bien, merci Bénédicte Aubry. Il en est un évidemment qui va pouvoir nous éclairer, il est nutritionniste. Raphaël Grumman, bonjour.
Bonjour Fanny.
Soyez le bienvenu Raphaël. Merci. Vous êtes auteur de différents ouvrages, alors vous quand il s'agit de vous accueillir, hein, on en a vraiment plein les bras. Chez Le Duc Édition, programme santé DASH, D-A-S-H qui veut dire
DASH, pardon. Approach to stop hypertension. C'est
d'accord.
En gros pour limiter l'hypertension.
Très bien. Le régime Mind, en fait, vous êtes un peu fluent, hein, vous. Hein, vous êtes un
exactly.
peu bilingue. Hein, donc, c'est le meilleur régime du monde aux éditions Le Duc pour le cerveau. Attention. Et puis, Raphaël Grumman, les nouvelles règles diététiques, la ménopause sans les kilos. C'est marrant, ça, il y a un petit message personnel ou quoi quand vous m'avez
rien
sorti ce livre il y a quelques instants.
Tout,
très bien. D'accord. Soyez le bienvenu, Raphaël Grumman. Alors, on parle aujourd'hui des étiquettes alimentaires. Est-ce qu'on peut dire que plus c'est court, plus c'est bon? Enfin, on se comprend.
Mais non, mais de quoi parle-t-on?
Mais de la liste des ingrédients, en fait.
A
moins
priori,
il y a d'ingrédients qui apparaissent, meilleur le produit est.
A priori, oui. Plus il est naturel, mieux c'est.
Plus les sains,
voilà. Effectivement. Et puis on comprend effectivement mieux ce qu'il contient.
D'accord.
Donc c'est sûr qu'on va essayer de choisir les produits les moins transformés possibles.
Est-ce que vous comprenez que, comme le disait d'ailleurs il y a un instant Bénédicte Aubry, on n'est pas forcément envie d'aller plus loin parce qu'en fait tout est fait pour nous décourager?
Ah bah oui, c'est sûr. Quand on voit la liste des additifs, la composition nutritionnelle et même quand on la lit, on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. Les lipides, les glucides, on ne sait pas forcément à quoi ça correspond, quelles sont les teneurs à respecter, à ne pas dépasser et puis ça s'inscrit dans un cadre d'une journée complète.
Oui.
Donc c'est pas que sur un aliment que ça va se reposer, ça va sur une combinaison de plusieurs aliments qu'il va falloir associer, décrypter pour avoir le meilleur équilibre alimentaire possible.
Sans compter tous les scandales aussi, on va dans un instant accueillir Bastien qui va nous parler des œufs et du fipronil. On a Marie qui nous a laissé un message sur Facebook. Moi, je suis paumée avec tous ces codes. Je ne me laisse pas influencer par les étiquettes Zappa, type je suis le meilleur produit, élu produit de l'année, blablabla, blablabla. J'en profite pour vous remercier, vous qui avez laissé des messages suite au post que nous avons laissé ce matin sur les réseaux sociaux où je pose et j'ai un label de qualité, voilà, 100% naturel. En tout cas, Marie nous explique qu'il y a non seulement les étiquettes avec la liste des composants alimentaires, et puis il y a aussi l'étiquette marketing. Il faut savoir s'en méfier.
Il faut savoir s'en méfier. Maintenant, le marketing agroalimentaire est quand même beaucoup plus cadré qu'à un certain temps. Mais il faut effectivement se méfier parce que quand on voit des fruits sur un emballage, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des morceaux de fruits à l'intérieur. Ça peut être des arômes tout simplement et donc on n'aura pas le vrai fruit à l'intérieur. Donc il faut se méfier de l'étiquetage, enfin l'emballage qui peut sembler trompeur et effectivement commencer à regarder un petit peu la liste des ingrédients pour voir s'il y a bien les bons produits à l'intérieur.
Très bien, on va accueillir Bastien, ce sera dans un instant sur l'antenne d'RTL. Si comme Bastien, vous souhaitez poser des questions à nos invités, Bénédicte Aubry qui est en pleine forme, Raphaël Grumman qui est plein de connaissances, et ben vous n'hésitez pas, vous composez le 3210 ou vous vous rendez tout simplement sur les réseaux sociaux. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Vous êtes au bon endroit, à la bonne heure. Il est 15h12, vous êtes sur RTL, c'est On est fait pour s'entendre. On vous donne rendez-vous tous les jours en direct entre 15h et 16h sur cette antenne pour parler de sujets qui vous concernent, qui vous touchent, qui vous interpellent. Alors aujourd'hui, on a décidé de se pencher, de nous pencher sur les étiquettes alimentaires en compagnie de nos invités. Bénédicte Aubry, qui est rédactrice en chef adjointe du magazine Serengo, et Raphaël Grumman, il est nutritionniste et il va pouvoir répondre à toutes vos questions. On a Clémentine sur Facebook qui nous écrit, c'est de mieux en mieux expliqué, je trouve, même si les groupes alimentaires tentent de maintenir un certain flou. On l'aura bien compris, il ne faut pas se laisser embobiner. Néanmoins, il y a du progrès quand même, Raphaël Grumman, en termes d'étiquetage.
Ah, mais ça, c'est indéniable. Il y a vraiment du progrès contraint et forcé de la part des industriels, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'avoir des étiquetages plus lisibles, plus compréhensibles par le grand public. Maintenant, c'est encore flou. Et il y a certaines zones d'ombre qui les arrangent bien aussi. Donc, il faut rester vigilant malgré tout.
Généralement, on ne consulte qu'un quart des informations disponibles sur l'étiquette. Le prix et l'origine des produits sont les informations les plus consultées dans 35% et 33% des décisions d'achat. La nutrition arrive en troisième plan. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Bénédicte Aubry ?
Et je pense que dans la nutrition, l'information qu'on va chercher en premier, c'est la valeur calorique.
Oui, on va y revenir.
Voilà, alors la valeur calorique, dans l'absolu, c'est intéressant. Mais c'est pas intéressant tout seul. Ce qui est intéressant, c'est la composition nutritionnelle, les nutriments qui composent les aliments. Donc oui, il faut vraiment éduquer son œil, savoir ce qu'on veut manger, savoir les besoins qu'on a, savoir si on veut limiter ses apports en graisse, si on veut limiter ses apports en sucre, ce qui est à peu près ce qui devrait être à peu près la règle pour tout le monde. Si on veut limiter ses apports en sel, eh ben il faut aller chercher les informations sur ces points-là très précis. Et on peut les obtenir puisque ces informations figurent dans les étiquettes. Ça fait partie de l'étiquetage obligatoire.
On sent que vous avez bossé votre dossier cet été.
Tout l'été, hein, sur béton, la plage, là, en Sardaigne.
On accueille, avant de rentrer dans ce détail-là, Bastien sur l'antenne d'RTL. Car vous avez tous entendu ces dernières semaines le dernier scandale alimentaire au sujet du fipronil. Et on a un amateur d'œufs qui est en ligne avec nous. Salut Bastien.
Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis un grand amateur d'œufs. J'en mange souvent dans les omelettes, les œufs sur le plat.
Mais est-ce que c'est parce que vous avez 25 ans et que vous ne savez pas faire la cuisine ?
Ça joue, ouais.
Ça joue un peu, quoi. Vous êtes le pro de l'omelette.
Je suis un peu le pro de l'omelette et le pro des œufs sur le plat, ouais.
D'accord. Alors ça vous a refroidi tout ça ?
Ouais, ça refroidit un peu parce que du coup, je ne sais pas du tout si il y a vraiment des risques de continuer à en manger aujourd'hui en France ou pas du tout, en fait.
Est-ce que vous consommez bio, vous ?
Ça dépend des fois, en fait. C'est pas régulier.
Alors, on va se tourner tout de suite vers Raphaël Grumman. En plus, les œufs bio ont eux aussi été concernés par le problème du fipronil. C'est quoi le fipronil ? C'est un antiparasitaire vétérinaire, c'est ça ?
Exactement. C'était pour lutter contre un pouls que les poules pouvaient être contractées. Donc, du coup, ils ont traité ces poules avec cet antiparasitaire. Le problème, c'est qu'il est interdit dans le cadre de la consommation. Humaine en tout cas, et peut avoir des conséquences sur la santé, notamment des conséquences neurologiques, c'est-à-dire avoir quand même des problèmes au niveau du cerveau et des problèmes également sur le foie, par exemple.
Bon, alors maintenant qu'on flippe et qu'on se dit, le fipronil était dans nos œufs.
Alors, c'était que sur un lot d'œufs,
voilà,
déjà.
On est bien d'accord.
Voilà, faut rassurer un petit peu.
Les taux n'étaient pas non plus dépassés.
C'était des taux très faibles. D'ailleurs, pour qu'il y ait vraiment un risque, il faudrait consommer 10 œufs par jour.
D'accord.
Pour avoir un risque potentiel chez l'homme.
D'accord. Donc, enfin, voilà. En même temps, Bastien, il mange que des omelettes.
Vous mangez peut-être pas 10 œufs par jour, Bastien.
Peut-être pas 10 par jour, non.
Voilà, vous avez un nutritionniste d'ailleurs. On reviendra à la consommation d'œufs. C'est quoi? C'est combien de fois par semaine? On peut peut-être en profiter pour
faire une petite consultation pour Bastien. Tant qu'il n'y a pas de problème, en général, on peut dire jusqu'à 6 à 8 œufs par semaine.
D'accord.
Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas en manger 10 par jour, quoi qu'il arrive.
D'accord. Ce n'est pas bon pour la santé, Bastien. Point d'excès, Bastien. Alors, le Fipronil, comment on choisit un œuf dont on peut être sûr qu'il sera, ne sera pas mauvais, en tout cas pour notre santé?
Alors là, dans le cas du Fipronil, c'était vraiment un accident de parcours. C'est des œufs qui ont été traités avec cet antiparasitaire, alors que ça ne devrait pas avoir lieu.
D'accord.
Oui, c'est un acte malhonnête et délibéré. Hein. C'est très clairement une arnaque.
Ah, c'est une arnaque, clairement.
D'accord.
Sur ce lot en particulier, donc c'est des œufs qui venaient des Pays-Bas et de la Belgique. Bon, c'est vraiment un lot contaminé, donc qui était impropre à la consommation humaine.
D'accord. Pour choisir un bon œuf.
Pour choisir un bon œuf, en fait, vous avez un code sur les œufs,
sur la coquille.
Un, 2 ou 3 qui déterminent 0, 1, 2 ou 3. 0 pour l'œuf bio. Mmh. Donc en général, on va plutôt s'orienter vers ce type de là si on veut avoir une consommation bio. Ensuite, 1 qui aura été élevé
en plein air.
2, je crois que c'est au sol.
Voilà, exactement.
Et 3
en cage.
En cage. Mmh. Voilà, donc généralement, moi en tout cas, ce que je conseille à mes patients, c'est des œufs 0
ou 1.
Pour avoir des œufs de meilleure qualité et puis aussi pour le bien-être animal, quand même, qu'on n'oublie pas.
Bien sûr, évidemment. Bastien, en tout cas, vous aurez sûrement appris ça sur l'antenne d'RTL aujourd'hui. Le Fipronil, bon, visiblement, c'est quelque chose qui est derrière. En tout cas, ça n'est plus d'actualité. Comme vous le disiez, c'était un accident prémédité et malhonnête de parcours. Néanmoins, vous pouvez toujours vous faire vos omelettes uniquement avec des œufs 0 ou 1, d'accord? C'est ce qu'il y a de mieux.
Pas de souci. Okay. Merci beaucoup.
Eh ben, je vous en prie, Bastien, bonne omelette. Et cassez pas des œufs. Hein. Allez,
merci.
On vous embrasse. Salut, Bastien. Dans un instant, on va rentrer vraiment dans le détail, pour le coup, de nos étiquettes alimentaires. On va essayer d'être les plus
pédagogiques possibles.
Tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Vous êtes en direct sur RTL jusqu'à 16h en notre compagnie. Un message de Steven sur Facebook. Quand on voit ce qui est marqué sur les étiquettes alimentaires alors que deux ingrédients suffiraient bien parfois, cela fait peur. J'évite de trop regarder, sinon je n'achèterai plus rien. Mais non Steven, vous écoutez en effet pour s'entendre et puis à la fin vous saurez précisément quoi regarder sur les étiquettes pour vous permettre d'avoir une alimentation plus saine, meilleure pour votre santé. Tout ça grâce au conseil de Raphaël Grumman, nutritionniste, et de Bénédicte Aubry, rédactrice en chef adjointe de Serengo, actuellement en kiosque. Alors, donc, je suis face à un produit, Raphaël Grumman, dans mon supermarché, et je regarde mon étiquette. On a bien compris que plus la liste des composants alimentaires est courte, meilleur c'est. Bon, ça, c'est déjà une chose.
Il y a les moins transformés, il y a plus de produits bruts, donc c'est à privilégier.
Très bien. L'ordre des aliments.
Oui, il est d'apparence croissant, c'est-à-dire que décroissant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le plus d'ingrédients dans les premiers ingrédients, et ensuite de moins en moins. Donc on regarde en priorité les premiers composants pour voir ce qu'il y a vraiment dedans.
Donc si je vois sucre en premier composant,
c'est que c'est un produit qui va être très sucré.
Et donc je pars en courant parce que ça n'est pas spécialement bon pour la santé, ou pas?
A priori, oui, tout dépendra du type de glucides, donc du type de sucre que vous aurez dedans. Parce qu'il y a plusieurs types de sucre.
Alors, allons-y, franco de porc. On va commencer, puisque Bénédicte Aubry nous invite aujourd'hui à être pédagogique, on va commencer par faire la différence entre les calories, les glucides, les lipides, les protéines et tout le tralala. On a tendance à regarder les calories directes. Est-ce que c'est vraiment la seule chose qu'il faut regarder en termes de
composition?
De composition.
Alors non, on ne va pas s'arrêter qu'à l'apport calorique. Oui, il faut le regarder, ça c'est une valeur très importante. Mais dans les calories, on va avoir différents types de calories. Des calories qui viennent des sucres, ou des graisses, ou des protéines.
Okay.
Donc, on va essayer de choisir un aliment qui soit le mieux équilibré possible, c'est-à-dire qui ait un bon rapport entre les protéines, les lipides et les graisses.
Et comment je le sais, ça sucres,
Tout simplement parce qu'il va falloir apprendre à bien choisir. Par exemple, si on a un aliment qui va contenir des protéines, plus l'aliment contiendra de protéines, mieux ce sera.
D'accord. Alors, les protéines, ça apporte la sensation de satiété.
Exactement.
Hein, c'est ce qui fait que ça nous nourrit, quoi.
Et ça cale, et en plus, ça entretient la masse musculaire.
Voilà.
Donc,
d'accord,
il faut que les protéines soient présentes en grande quantité.
Alors, en grande quantité, c'est-à-dire, moi, je ne m'en rends pas compte.
C'est un gramme par kilo, je crois. Hein,
un gramme par kilo, exactement.
D'accord. Un gramme par kilo de produit.
Voilà.
D'accord.
Vous faites 30 kilos, vous pouvez manger 30 grammes.
Ah non, de kilos de produits.
D'accord.
Et par aliment. C'est-à-dire, je
c'est pour
regarde
les protéines, ça. Pour
d'accord,
la viande,
okay,
ou
pour les protéines.
Poisson,
très
voilà.
Bien. D'accord. Ensuite, les glucides, c'est quoi?
Les glucides sont les sucres. Et vous allez avoir deux types de sucres. On va avoir les sucres qu'on dit rapides et les sucres lents.
D'accord, donc il y a les ceux qui sont...
Qui vont avoir une assimilation lente, donc qui vont passer lentement au niveau du sang, et les sucres qui vont passer très vite. D'accord. C'est les sucres rapides. Et évidemment, on va essayer de privilégier les sucres qui passent lentement, qui vont apporter de la satiété, qui vont caler longtemps, et on va fuir tout ce qui est sucre rapide.
D'accord. Et on ne fait pas la différence dans les étiquettes alimentaires entre les sucres lents et les sucres rapides ?
On va avoir une différence, c'est notamment quand on lit « don sucre ».
D'accord,
il y a
ok.
Glucides, un premier chiffre, et la ligne en dessous, c'est « don sucre ». Donc la ligne qui faut bien lire, c'est « don sucre ».
Très bien. Les lipides, ça c'est la bonne vieille matière grasse.
Mmh, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui donne du goût.
C'est ce qui donne du goût, mais c'est ce dont il faut se méfier aussi.
Alors, il en faut.
D'accord.
Pour vivre, il faut des graisses.
Okay.
Alors qu'on n'a pas forcément besoin de sucre rapide.
D'accord.
Ça, c'est vraiment que pour le plaisir, les sucres rapides. Les graisses sont indispensables au corps pour produire les hormones, par exemple, entretenir la peau, etc. Pour faire fonctionner le cerveau, il faut des graisses.
D'accord.
Donc, il faut... pas non plus complètement supprimer les graisses de son alimentation.
D'accord.
Et parmi les graisses, on va avoir différents types de graisses. Il y en a certaines qui sont à éviter ou à vraiment limiter, c'est ce qu'on sont toutes les graisses saturées,
okay.
Donc qui viennent plutôt du règne animal. Mm-hmm. Et on va avoir tout ce qui est graisses poly ou monoinsaturées, donc ça sont les bonnes graisses.
D'accord, ok. Type oméga 3, 6, 9 et tout, exactement. Ça c'est dans les polyinsaturés.
Exactement.
D'accord, ok. D'ailleurs, il faut croire là, quand on a des produits genre oméga 3, riche en oméga 3, riche en oméga 6 et tout, est-ce que ça c'est un argument marketing ou est-ce que c'est quelque chose de réel ?
Franchement, c'est plus marketing que vraiment un bénéfice nutritionnel. Oui, il faut des oméga 3 et c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour les articulations. Le problème c'est que l'industrie agroalimentaire l'a bien compris et en fait ils vont en rajouter alors que le produit n'en contient pas forcément à la base.
D'accord, ok, très bien.
Voilà. Et la mention riche en, ça correspond à 30% des apports journaliers recommandés. Mais alors ces notions, c'est un tout petit peu technique, mais les apports journaliers recommandés, c'est des taux qui sont tellement bas que 30% d'un taux tellement bas, reste assez négligeable. Donc le riche en, on s'en méfie un peu.
D'autant que les oméga 3, on les retrouve aussi dans des aliments
simples et naturels, comme dans le poisson gras par exemple, le saumon, le thon, le maquereau.
L'avocat.
On en retrouve dans l'avocat. Donc on en retrouve dans les produits non transformés. Mmh.
Très bien. Dernière chose, donc les calories, comment je les calcule, moi, ces calories-là ?
Alors, le calcul calorique...
Moi, je dis moi à tout le monde. Hein.
Oui.
C'est la question que tout le monde se pose.
Alors, à la base, moi, quand je vois mes patients, je ne leur dis pas forcément de calculer un apport calorique journalier parce que ce n'est pas forcément le plus simple et le plus révélateur d'une bonne alimentation.
D'accord.
Mais si vous voulez, je vous réponds à votre question. Les calories, c'est l'addition donc, des protéines, des lipides, des glucides.
Très bien, ok. On se retrouve dans un instant, vous allez m'expliquer l'addition et ce sera avec vous sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
RTL.
RTL, c'est
des découvertes,
mais aussi des standards.
Et des nouveautés.
RTL.
On aime la musique sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Alors, on va se tourner vers le docteur Raphaël Grumman. On parlait il y a un instant de l'apport calorique des aliments quand on regarde une étiquette alimentaire. Je voudrais rebondir sur les régimes. Vous savez, parfois, on nous propose des régimes, des régimes caloriques.
Enfin,
basse calorie, voilà, c'est ça. Où on vous dit, bon, bah voilà, on va vous mettre à tant de calories par jour. Vous me disiez que c'est totalement has-been, ça.
Ah, ça, c'est fini. Aujourd'hui, on ne peut plus proposer à un patient un régime basse calorie. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne rentre pas vraiment dans le détail du régime. C'est-à-dire qu'on peut effectivement. On en discutait tout à l'heure, mais on peut faire un régime à 1500 calories en donnant que du chocolat et on va atteindre les 1500 calories en mangeant que du chocolat.
Et là, on aura.
Et là, on va grossir. C'est complètement has-been, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut rentrer dans le détail, avoir une bonne répartition des nutriments dans un régime.
Ok. Très bien. Mais en même temps, il y a un cadre hein, quand même pour nous fixer
si
un peu
Bénédicte Aubry. Oui, voilà, si on veut aider vos auditeurs, on considère en principe, et Raphaël Grumman me dira si je me trompe, mais qu'une femme qui veut maintenir son poids, qui n'est pas dans une logique d'amincissement, a besoin d'environ 1800 calories. Pour un homme, on estime que c'est 2000 ou 2100. Donc quand on achète un plat
comment
tout préparé...
Comment on fait voilà.
Voilà, par exemple, je sais pas, on achète...
Par jour, hein, c'est 1800 calories par jour,
oui,
pardon,
pas par repas.
Hein.
Non. Quand on achète un plat tout préparé de viande et qu'il est à 400 calories... Bon, ben voilà, quand on a le droit à 1800 calories dans sa journée, on voit déjà qu'on en a quasiment consommé le quart.
On reviendra quand même hein, sur les plats préparés, sur les produits transformés, parce que c'est vrai qu'on va quand même conclure cette émission en se disant que parfois bah, c'est plus rapide et c'est tout aussi rapide que de faire un bon petit plat le soir en rentrant que de sortir un truc de congélo, que de le décongeler et que de le servir à table. Enfin voilà, il vaut mieux quand même faire soi-même la cuisine et ça permet d'éviter ce genre de problématiques. Néanmoins, je voudrais qu'on revienne toujours à nos étiquettes. Les fibres, C'est pour digérer, ça? C'est pour un bon transit, docteur?
Oui, c'est pour un bon transit.
Donc il en faut.
Il en faut même beaucoup. Et on n'en mange pas assez aujourd'hui en France.
Alors,
on n'en consomme pas assez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut consommer, on dit, entre 25 et 30 grammes de fibres. Aujourd'hui, on arrive péniblement à la moitié.
Ok.
Le problème, c'est que les fibres, en général, ça permet d'avoir de la satiété. C'est-à-dire que ça cale et ça cale longtemps dans la journée.
Comme les protéines.
Exactement. Donc plus on va en manger, moins on va avoir faim, moins on va avoir besoin de grignoter. Ça, c'est la première chose. Et en plus, ça entretient le transit. Ça évite les problèmes de constipation, les problèmes de diarrhée. Donc, c'est pas très glamour, mais c'est vrai qu'un bon transit...
Ça fait faire un bon caca.
Ben, voilà. Exactement.
Pédagogie. Alors donc, à partir de ce moment-là, si ça contribue à un bon transit et qu'on n'en mange pas assez, où est-ce qu'on les trouve, Raphaël Grumman?
Donc les fibres, on va les trouver principalement dans les fruits et les légumes et dans les céréales complètes. Par exemple, le pain complet. Donc, si vous devez consommer du pain plutôt que de consommer de la baguette blanche, toute blanche, préférez un pain complet ou un pain aux céréales ou un pain aux graines. Là, vous aurez déjà beaucoup plus de fibres et il y aura un vrai bénéfice nutritionnel.
Certains ont peur que les fibres soient énergétiques, caloriques. C'est une réalité ou pas?
Alors non, les fibres n'apportent pas d'énergie à l'organisme. On ne prendra pas de poids en consommant des fibres.
D'accord. Donc, parce que certains disent un bon pain aux céréales ou un bon pain complet, ça me semble beaucoup plus consistant et donc forcément, ça va me faire prendre du poids par rapport à une baguette.
Peut-être plus dense, le pain peut-être plus compact, mais pas forcément plus calorique.
Et puis on trouve beaucoup de fibres dans les fruits et légumes qui ne sont particulièrement peu caloriques.
Mais qui sont très sucrés.
Pour certains qui peuvent être très sucrés. Mais les fibres aussi, ça piège le gras. Ça permet de l'évacuer via l'opération dont nous venons de parler, naturellement. Donc voilà, ça a quand même beaucoup d'intérêt, les fibres.
D'accord. Le sel, on se bat contre le sel. On a fait une émission spéciale que vous pouvez écouter en replay sur rtl.fr. C'était à la fin de la saison dernière, aux alentours du mois de juin. Raphaël, il me regarde et il me fait j'étais là. Le sel, il faut faire super attention, Raphaël.
Et oui, il faut faire attention parce que le sel est très présent dans les produits transformés parce qu'il a une valeur technologique au niveau du produit. C'est-à-dire que on va ajouter beaucoup de sel pour, d'un point de vue gustatif, c'est-à-dire plus le produit est salé, plus il va être appétant, donc plus on va avoir envie d'en consommer, mais il permet aussi de capter un maximum d'eau dans le produit. Donc les industriels ont intérêt à mettre un max de sel dans leurs produits, capter un maximum d'eau, donc on aura un produit beaucoup plus lourd.
D'accord, ok. C'est vrai que tout ce qui commence par E, ça craint sur les étiquettes?
Mais c'est E comme ennemi.
E comme ennemi. Et on va justement vous donner dans un instant tous les trucs pour repérer les ingrédients qui justement sont mauvais, nocifs pour la santé. Ce sera tout de suite sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Alors, il y a Edwige qui nous donne des trucs. Elle nous écoute, elle a laissé un message sur Facebook. Moi, j'ai mon appli Yuka, Yuka, top pour choisir les aliments et proposer d'autres pour remplacer les fameux aliments douteux. Alors, plein de solutions, on va vous en apporter évidemment en fin d'émission, mais merci de les partager avec nous sur les réseaux sociaux. On en est fait pour s'entendre, vous êtes tous les bienvenus. Alors, dans une étiquette alimentaire, ce qui commence par E est ennemi. Enfin, vous exagérez un petit peu.
J'exagère un petit peu. Parce qu'en fait, les E, ça correspond aux additifs qui peuvent être des conservateurs, des agents de texture.
Bon, en tout cas, quand ça commence par E, ça, c'est pas terrible.
Non,
on est d'accord.
On a besoin de certains. Certains sont d'origine naturelle, d'autres d'origine pas naturelle.
D'accord.
Voilà. Si on veut aider les gens, moi, personnellement, je n'ai pas en tête la liste de tous les additifs qui sont dangereux. En tout cas, il y a une règle simple à intégrer, c'est que dans un plat préparé, au-delà de 4 additifs, ça commence à faire beaucoup. On ne sait pas tellement quelles peuvent être les interactions les uns entre les autres. Donc voilà, ça peut être un moyen de guider vos auditeurs.
D'accord, donc la règle d'or, limiter au maximum les produits qui contiennent plus de 3-4 additifs. Ça veut dire que le produit est très transformé, et qu'il y a assez peu d'ingrédients bruts. Alors, on a des E200, alors les colorants c'est dans les E100, c'est ça?
C'est ça,
Raphaël Grumman.
Exactement.
Les conservateurs sont dans les E200,
oui.
Les exhausteurs de goût dans les E600 et les édulcorants, c'est dans les E900. T'as compris? Alors, donc, allons-y. Mais c'est vrai, il y a quand même dans les bonbons, les confitures, les boissons sucrées, tous les sodas et tout, on retrouve des E100, E110, E122, E123 et tout. Ça fait quoi?
Toutes ces gélatines, forcément, vous allez avoir un maximum d'additifs parce qu'il y a pratiquement rien de naturel dans ces produits-là. C'est que des produits transformés. Il faut les conserver, il faut le côté gélifiant, il faut le côté brillant. Faut les colorants pour le goût, la couleur. Enfin bref, vous avez que des additifs dans les bonbons.
On dit que ces colorants peuvent avoir un lien avec l'hyperactivité chez les enfants. Donc ça, oui, il faut le savoir. Quand on donne donc des bonbons, alors on va être clair, ouais, en excès. Hein. C'est bien pas sûr, un petit ourson ou un petit crocodile.
Et c'est sur des longues périodes aussi de consommation. D'accord. C'est de la surconsommation sur plusieurs années qui peuvent conduire effectivement à ce type de problème-là.
Alors, E102, E110, E122, E123, E124, E129, voilà, c'est vraiment pas terrible pour nos enfants ou pour nous-mêmes, hein, si on consomme des sodas ou des bonbons et qu'on y retrouve donc ces additifs. Il y a le E171 qui est le dioxyde de titane, qui est potentiellement cancérigène sur des rats, en tout cas. Il y a des colorants avec les risques d'allergie, c'est E104, E120, E131, E133, E142. Et puis, il y a les nitrates et les nitrites, ça c'est dans les charcuteries, en fait,
oui, le Raphaël fait, Grumman. Donc, c'est des produits de conservation au niveau de ces produits-là. Et c'est les cuissons qui vont aussi dégager ces molécules qui vont être néfastes au niveau de l'organisme.
D'accord. Donc, tout ce qui est charcuterie, tous ces trucs-là, et qui contient donc...
il faut les limiter.
Ça, c'est de E249 à E252. E259 à E252.
Tout est dans Serengo.
Et non, tout est dans Serengo actuellement en kiosque. Mais pour ceux qui nous écoutent et qui vont faire leur course ce soir, au moins, vous le saurez. Donc, ça veut dire que tout ce qui est E, quand même, il faut se méfier et il faut limiter à 3-4 additifs par produit que l'on achète. En fait, il faut privilégier le bio. Mais moi, j'ai appris un truc assez étonnant dans votre enquête, Bénédicte Aubry, c'est qu'il y a des additifs aussi dans le bio.
Absolument. Le bio ne veut pas dire sans additifs. Alors, ça peut être des additifs naturel, comme
bien
je
sûr
le disais
et bio,
tout à l'heure.
Forcément.
Et puis la liste, ce qu'il faut dire quand même au crédit du bio, c'est que la liste des additifs autorisés dans le bio est quand même largement inférieure à celle des additifs autorisés dans la nourriture classique, traditionnelle. Ça va du simple au 4.
Oui, parce que c'est 50 additifs pour le bio.
C'est de 1 à 4.
Oui, voilà, c'est ça. Entre 50 pour le bio et 400 quasiment...
238
pour l'alimentation traditionnelle. 400 pour l'alimentation traditionnelle.
C'est ça, de 1 à 6. Enfin bon, bref, bon, c'est beaucoup plus, quoi.
Enfin voilà, on
l'aura pédagogie.
Compris. Pédagogie, ça n'a absolument rien à voir. On a des questions qui nous arrivent pour nous parler des allégés, des sangs, des sources d'œufs, des riches en et tout. Ça, il faut savoir s'en méfier aussi.
Oui, parce que c'est assez... marketing comme ouais information au niveau d'un produit, ça va être généralement affiché sur la face avant du produit, le riche en
allégé.
Et ça, forcément, c'est pas une indication très intéressante.
Et le 0% de matière grasse là, dans les yaourts, alors, c'est une réalité ou pas?
C'est une réalité, c'est-à-dire que oui, ils vont enlever le gras des yaourts. Clairement, ça n'a aucun intérêt d'un point de vue nutritionnel. Il faut du gras et en plus, c'est des bons gras. Donc ce gras-là, moi, je le conserve, notamment quand je conseille des laitages à mes patients. Je ne leur dis pas forcément d'aller chercher des yaourts allégés en matière grasse, mais des yaourts sans sucre. C'est-à-dire pas forcément avec des faux fruits dedans, comme on peut voir sur l'emballage, qui vont être forcément qu'il y avait des exhausteurs de goût ou des colorants qui n'aura aucun intérêt.
Très ouais bien.
Oui. Et ça d'ailleurs, on constate assez simplement en regardant juste la valeur calorique d'un yaourt allégé et d'un yaourt nature classique. C'est dérisoire le gain de calories. Hein.
Ah bah oui, vous allez gagner peut-être 10 calories sur un yaourt, ce qui est rien du tout dans une journée où vous consommez quasiment 2000 calories dans la journée. C'est pas là-dessus qu'on va vraiment avoir un bénéfice.
Donc autant se manger un bon yaourt bio, sans sucre, voilà.
Hein, sans sucre ou avec une petite cuillère à café de chocolat en poudre dedans, un peu de cannelle, quelque chose qui va relever le goût du yaourt ou le mélanger avec des fruits.
Très bien. On a Nadine sur Facebook. Suite à des allergies alimentaires, je regarde. C'est compliqué. Parfois 2 heures pour faire les courses les premières fois. C'est vrai que ça prend du temps et puis après on a l'automatisme. Des fois on trouve des ingrédients incroyables dans des produits comme du paprika dans de la crème anglaise. Ça c'est quoi? C'est le côté colorant, mais en soi c'est pas dangereux.
C'est exactement le côté colorant. Ça va pas avoir d'incidence sur la santé, mais c'est vrai que c'est pas naturel.
Très bien, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. J'ai encore plein de questions à vous poser qui nous arrivent justement de la part de nos auditeurs. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Alors, vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les codes de couleur, justement, sur nos produits. On va y revenir dans un instant avec nos invités. Mais pour l'heure, accueillons Louise. Elle a 25 ans. Elle est créatrice d'un blog Sois bio et bats-toi. Bonjour, Louise.
Bonjour.
Soyez la bienvenue sur RTL. Merci, Louise, de nous accorder un petit peu de temps. Vous avez fait un article sur votre blog, des recherches sur le sujet. Ça veut dire qu'au début, vous n'y compreniez rien aux étiquettes alimentaires et vous vous êtes dit, du haut de vos 25 ans, moi, je veux vraiment savoir ce que je mange et vous vous êtes penchée sur la question. Est-ce que c'est compliqué?
Alors, c'est compliqué dans le sens où j'avais beaucoup de questions, où j'avais pas forcément le temps quand j'allais faire mes courses, comme tout le monde, de prendre 3 heures dans le magasin pour regarder la liste de tous les édulcorants, conservateurs, etc. Mais une fois qu'on a fait le tri, c'est vraiment plus facile. Il faut vraiment prendre le temps une bonne fois pour toutes de le faire. Et après, ça va un peu plus vite, un peu plus facilement pour les courses de la vie de tous les jours, on va dire.
Alors, soit bio et batois, ça veut tout dire quand même, hein, le nom de votre blog. Ça veut dire que vous êtes une adepte du bio, ça simplifie grandement les choses, le bio.
J'essaie.
Il faut préciser quand même que le bio, on avait fait une émission dessus, hein, le bio dans les supermarchés aussi, plus traditionnels et pas spécialisés bio, c'est du vrai bio aussi, et les prix sont beaucoup plus accessibles aussi, donc le bio n'est pas non plus toujours qu'une histoire d'argent, et on peut trouver des produits parfois à des prix j'ai même trouvé moi moins cher que le traditionnel, hein, donc il faut le savoir. Alors donc vous avez réussi vous à vous y retrouver, aujourd'hui vous avez complètement changé votre façon de vous alimenter.
Je vais beaucoup plus vers le bio et vers le vrac quand je peux, parce que ça reste quand même plus cher que, on va dire, la moyenne. Mais vraiment changer le plus possible, et une fois qu'on a fait une liste de courses, vraiment qu'on a besoin toutes les semaines de la même chose, on change plus facilement et on repère plus facilement ce qui va pas, surtout quand on a, par exemple, il y a la petite application sur le téléphone où on peut aller voir ce que signifie le E112 ou le E918. C'est plus facile après dans le magasin de se repérer si on va acheter plus facilement nos produits.
Louise, c'est quoi le greenwashing ?
Alors en fait, le greenwashing, on en parle souvent en cosmétique, mais ça existe aussi dans l'agroalimentaire. C'est le fait de mettre en avant sur son packaging l'idée qu'il pourrait être plus naturel ou plus meilleur pour la santé, alors qu'il ne l'est pas forcément. Par exemple, quand on y a le nom light sur un packaging, ou que c'est 100% naturel, alors que ce n'est pas forcément 100% naturel, ou qu'on voit des beaux fruits rouges bien beaux et sortis du potager, alors qu'il n'y a pas forcément de fruits dans le produit. C'est vraiment de mettre en avant un produit qui n'est pas forcément ni bio, ni naturel, ni du bon pour la santé que ce qu'on voudrait nous faire croire.
Donc il faut se méfier donc du greenwashing, hein, qui est une tendance marketing et qui quelque part nous induit en erreur. Jean-Xavier a parlé du Nutri-Score, c'est la mise en place des codes couleurs. Alors il nous explique sur Twitter que c'est une bonne chose, malheureusement la réglementation européenne en interdit l'obligation. Louise, vous repérez vous à ces codes couleurs ?
Alors, on avait beaucoup parlé de ça sur les réseaux sociaux. C'était vraiment une bonne idée, je pense, pour tout le monde, que ce soit de la maman qui fasse ses courses, à l'étudiant, etc., qui connaît pas forcément la diététique. Mais c'est vrai qu'on le voit peu, au final, dans les magasins, que ce soit bio ou pas bio. Mais c'était vraiment une bonne façon de mettre en place des conseils nutritionnels. Et je pense que les nutritionnistes valider le programme, mais je pense que ça ne plaît pas à tout le monde.
Alors, le Nutri-Score, c'est quoi, Bénédicte Aubry ?
Alors, effectivement, c'est une mention légale qui a été validée par le ministère de la Santé et qui permet de classer les aliments en 5 catégories. Donc, les meilleurs étant les aliments classés en vert avec la lettre A. Et donc, il y a 5 couleurs. Donc, voilà, en rouge avec la lettre E. Voilà, c'est facultatif. Donc, autant dire que...
Tout le monde ne s'y est pas mis.
Voilà, il y a un certain nombre d'industriels qui ne s'y sont pas mis et qui ont même fait campagne contre. Après, il y a quelques marques qui sont assez claires sur leurs intentions et sur leur fabrication et qui jouent le jeu. On en cite quelques-unes dans Serengo. Il y a certains distributeurs, Intermarché, Leclerc, Auchan, des marques comme Fleury Michon aussi qui jouent le jeu du Nutri-Score.
Voilà, absolument. Le Nutri-Score, c'est une bonne chose validée par vos nutritionnistes,
très
Raphaël
bon premier pas. Très bon premier pas dans la démarche d'éducation nutritionnelle des consommateurs.
Mais il faudrait que ce soit obligatoire, quoi.
Déjà, il faudrait que ça soit obligatoire. Ouais. Que ça soit uniformisé sur tous les produits, le même code pour que ça soit encore plus facile pour le consommateur de se repérer. Malheureusement, il reste encore pas assez complet à mon sens, et il prend pas en considération par exemple les additifs dans son choix. Ouais. Donc malheureusement, oui c'est bien, mais c'est pas encore assez.
Voilà, ça n'est pas totalement abouti. Louise, je vous remercie de nous avoir accordé du temps et je conseille donc votre blog Sois bio et batois. On peut le retrouver et puis par conséquent faire aussi votre connaissance, Louise, à travers ce blog. Merci beaucoup.
Merci
à bientôt,
beaucoup,
Louise.
Au revoir.
Salut. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
La vie flamande.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Et au fait, les labels Bénédicte Aubry fossifiés ou pas ?
Alors, il y en a quelques-uns quand même qui méritent notre attention. Je pense au label rouge qui est quand même un label de qualité, le label bio, le label Max Avelar, commerce équitable, on peut s'y fier aussi. Tout ce qui est AOP ou AOC, donc appellation d'origine contrôlée, ça aussi c'est des labels qui sont absolument fiables et officiels.
Voilà, et puis les produits Bleu Blanc Cœur également qui sont des produits bio.
Qui sont des produits base de lin.
Voilà.
Donc, Oméga 3.
Voilà, on se comprend. Je vous remercie, Bénédicte Aubry, d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle, Seringo Magazine, actuellement en kiosque et partenaire de cette émission, dont vous êtes la rédactrice en chef adjointe. Merci beaucoup, Bénédicte.
Merci,
Raphaël Grumman, je vous laisse repartir, mais je garde vos ouvrages. Programme Santé Dash en 7 jours aux éditions Le Duc. La ménopause sans les kilos, les nouvelles règles diététiques aux éditions Le Duc. Et le programme du meilleur régime du monde pour le cerveau aux éditions Le Duc. Merci à vous. Demain sur RTL, demain, sujet qui pique, comme disent les plus jeunes. Si on choisit l'être aimé, on ne choisit pas forcément son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Bah oui, c'est pas toujours le bonheur. Est-on obligé d'aimer sa belle famille, belle maman, beau papa, ce message est pour toi. Ce sera demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.